Spicuni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bonjour et bienvenue et joyeux Noël puisque cette émission bénéficie d'une double diffusion le jour de Noël. Eh oui, par exemple, puisque nous allons parler des fêtes dans les religions aujourd'hui avec Yacine Ilmi. Bonjour Yacine.
Bonjour à tous.
Vous êtes chef d'entreprise dans le numérique et fondateur de l'association OSES, Yacine, institut de formation qui s'adresse aux cadres religieux, aux imams.
Je vais bientôt vous recruter, Philippe.
Oui, je ferai votre publicité. Tiens, honneur aux dames, Catherine Escrive est avec nous. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous.
Vous êtes journaliste multimédia, réalisatrice de documentaires. Vous êtes la bienvenue. Le pasteur Patrick Lagarde est avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour à tous.
Trésorier de la Fédération protestante de France. Côté de vous, c'est l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour, imam Abdelali.
Bonjour, Philippe.
Régional de l'étape. Hein, c'est votre, la radio sur laquelle vous officiez depuis des années. Mm-hmm. C'est un plaisir de vous voir.
Partagé.
Petit nouveau, Karim Ifrag. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Quand je dis petit nouveau, dans l'émission.
Un grand.
Docteur de l'école pratique des hautes études. Rien que si je vois son CV, on a fini. On dit voilà, que l'émission est terminée. Islamologue, chercheur au CNRS et codicologue spécialisé dans le codex du Coran. Vous venez de publier La réforme en islam, quelques clés de lecture aux éditions Al-Bourak, notamment.
Tout à fait.
Voilà. Et puis Christian Bailly est avec nous. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes membre de la paroisse d'Enghien-les-Bains et membre de l'association interreligieuse 4x1.
Tout à fait.
Bien, c'est Noël aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a appris comme mot, Yacine, en préparant l'émission?
Il y a un mot qui m'a vraiment questionné, c'est l'avant.
Avec un E.
Avec un E, exactement, mm-hmm. Imam Abdelali. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait nous dire ce qu'est l'avant?
Je veux bien essayer. Avant, ça s'écrit donc A-V-E-N-T, pas comme le mot avant.
Qui normalement s'écrit avec un A.
Avec un A. C'est la contraction d'avènement, puisqu'en fait, on attend pendant la période de l'Avent, à partir de pendant 4 dimanches avant Noël, la venue de Jésus. Voilà.
D'accord.
La naissance.
D'où la tradition des ce qu'on appelle les calendriers de l'Avent, c'est ça?
Exactement, oui.
Ouais.
Mais c'est surtout parce que c'est avant, avec un A.
Voilà, on attend l'avènement avant.
Alors, parce que si c'était après, on ne l'aurait pas appelé avant.
Je ne sais pas si on aura le temps de développer sur cette période de l'avant. Mais c'est vrai que c'est une période très forte, d'attente très forte, et de joie aussi, qui finit dans la joie, finalement.
Bien. Est-ce qu'on a un autre mot, Yacine?
Mais écoutez, j'ai retenu que celui-là. Pour
bon. Est-ce que quelqu'un peut me définir le mot Noël? Vous battez pas. Qu'est-ce que ça veut dire, Noël?
Ah.
Catherine.
Noël. J'ai parlé du premier. je prends des risques si j'essaie de définir le second.
Ouais.
Je me tourne vers le catholique.
Là, je suis un peu sec.
Bon,
Noël, alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas quoi je recherche.
Non, pourquoi ça s'appelle Noël, en fait, la définition, l'étymologie, l'étymologie du mot Noël.
Je crois que c'est nativité, il me semble.
Oui. Ah, nativité, oui, vous avez raison.
C'est la naissance de Jésus. Hein.
D'accord,
c'est
mais censé être. Sur l'étymologie de Noël, ça vient effectivement de la nativité. Quel est le statut de Noël, alors, en islam, Karim Ifrak?
Écoutez, les jurisconsultes sur la question de Noël, ils sont très, très fermes et très secs. Maintenant, il faut la contextualiser, parce que c'est quelque chose qui s'est développé dans une terre d'islam et qui s'est développé à la base dans une espèce d'animosité qui a toujours animé le monde musulman naissant avec le monde byzantin qui était chrétien. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du rejet, mais il faut faire très attention, ce sont des considérations qui appartiennent à une certaine époque, qui appartiennent à une certaine idéologie, et qu'aujourd'hui, vu que le monde il est devenu un petit village, ces considérations sont à reconsidérer, et personnellement, je pense que partager les joies et les fêtes de Noël, pas d'un point de vue juridique ou théologique, mais vraiment d'un point de vue de vivre ensemble et de partage de joie avec son voisin, avec son ami, avec son collègue, de la même façon que lorsque vous rencontrez votre collègue qui n'est pas forcément musulman et que vous lui souhaitez la bonne naissance de son petit ou de son dernier. On est vraiment dans cette considération et libre à chacun de le fêter avec ses amis comme bon lui semble.
Bien. Alors, allez-y, Christian Bellier.
Comme exemple, il y a 10 jours, nous avions une réunion qui s'appelle le Noël pour tous, où justement, organisée entre autres par l'association 4 fois 1, où nous réunissons donc des membres de toutes les confessions et non confessionnelles autour d'un repas partagé. Et effectivement, à l'entrée de cette réunion, on a exposé le chandelier d'Hanouka, la couronne de l'Avent, et on chacun explique à tour de rôle ce que signifie très brièvement ça. Voilà. Mmh.
Si vous permettez, je pourrais juste ajouter très rapidement la considération de Noël par rapport à l'islam même. Dans l'islam, Jésus, donc parce qu'on est en train de parler de Jésus finalement, la naissance.
Puisque c'est la fête de la nativité.
C'est bien ça. Il est considéré avec beaucoup beaucoup de déférence. Et ce Noël qui a toujours existé, qui a traversé un petit peu les générations, les âges, il a donné la très bonne idée aux musulmans de développer la naissance du Maoulid, la naissance du prophète Mohammed. Et donc c'est quelque chose qui nous vient du monde chrétien et qui nous vient par analogie de Noël.
Mmh. Alors, le statut de Jésus dans l'islam, Imam Abdelaziz.
C'est un immense et un des plus importants prophètes de l'islam, que nous considérons comme étant l'être miraculé par excellence, puisqu'il est né d'un miracle, il meurt par le miracle, il est auprès de Dieu sans avoir même... non, puisque en fin de compte, chez nous, les musulmans, on dit qu'il ne meurt pas. Hein, il n'a été ni tué, donc on ne le tue pas pour le ressusciter selon l'histoire musulmane, mais on l'élève directement sans mort, corps et âme. C'est-à-dire qu'on dit que son corps et son âme sont auprès de Dieu pour effectivement attendre le moment où est-ce qu'il reviendra à la fin des temps, le Messie, le fameux Messie de la fin des temps, afin de rétablir l'ordre, la paix, l'amour entre les humains, puisque le chaos aura été répandu par le fameux antéchrist, l'antichrist, hein, qui est l'ennemi du Christ, qui sera tué par le Christ lui-même rétablira ainsi la justice et la paix dans le monde tout entier pendant une quarantaine d'années. Et le Coran lui-même dit que il parlera, il a parlé bébé et il parlera aussi vieux. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَ. Le mot kahla qui veut dire vieux, alors qu'il a été élevé au ciel à l'âge de 33 ans ou autour de 30 ans, on rapporte selon les traditions. Eh bien, dans le Coran, il est mentionné qu'il parlerait alors qu'il sera vieux. Eh bien, c'est simplement parce qu'il reviendra et vieillira et mourra, selon les traditions musulmanes, comme un être humain, comme il se doit, et attendra le jour de la résurrection pour rentrer parmi les tout premiers au paradis avec tous les autres prophètes et tous ceux qui ont suivi Jésus et qui ont été dans la lignée du message prophétique de notre grand prophète Jésus-Christ, alayhi salam. Nous-mêmes, on ne peut pas prononcer le mot Jésus sans y associer que la paix soit sur lui. C'est un manque de respect que de dire Jésus tout seul. On doit dire Jésus, alayhi salam, que la paix soit sur lui. C'est une marque de respect que les musulmans doivent accorder. Et tout musulman qui ne croit pas en Jésus, eh bien, il n'est pas musulman. On a l'obligation, ça fait partie du credo, du dogme musulman, que d'accepter que Dieu a envoyé un prophète qui n'a pas de père, puisque nous ne considérons pas que Dieu est le père de Jésus, hein, qu'il est le créateur de Jésus, mais de manière miraculeuse, c'est-à-dire d'une mère sans avoir eu besoin d'une fécondation masculine.
Alors, on reviendra là-dessus, Imam Abdelali. Patrick Lagarde, Noël, c'est une fête chrétienne?
Oui, c'est une fête chrétienne, donc et également célébrée par le monde protestant. Je dirais que l'accent est mis sur la paix qui entoure ça. La paix et la fraternité. Et je crois que ce symbole de paix et de fraternité a dépassé d'ailleurs le monde chrétien pour être largement répandu. J'ai longtemps et beaucoup voyagé en Asie, par exemple, et bien Noël y est fêté. Pas forcément...
Ça veut dire quoi, Noël y est fêté?
Ça veut dire que ce jour-là est un jour de joie, un jour où les familles se retrouvent, et où assez facilement on se souhaite la paix. Je regardais hier soir un film là-dessus sur la guerre de 14 avec cette fraternisation de deux ennemis qui sont de part et d'autre de tranchées et qui, le jour de Noël, vont fraterniser. Ça va poser d'énormes problèmes derrière ça, c'est clair, mais en même temps, les hommes sont là et se souviennent que un jour... le Messie est venu et a apporté la paix à l'humanité. Alors, elle n'est pas encore là, on le voit bien, mais nous l'attendons tous dans un devenir. Et donc, c'est le jour où on est en train d'espérer avant, hein, d'Advent, de la venue un jour du Messie qui reviendra de manière définitive et apportera en ce monde la paix.
Alors justement, chez les protestants, comment est-ce qu'on on commémore ce jour?
Alors,
est-ce qu'on va le matin au temple ou...
Alors, pas forcément.
C'est le soir, je crois, non?
Alors,
c'est la veillée.
Il y a les deux, le 24 alors, et il y a le 25.
Il n'y a pas, chez les protestants en général, un culte spécial à ce moment-là, contrairement à l'Église catholique où il va y avoir une messe spéciale. J'allais dire, c'est le jour ou la semaine d'avant ou d'après que vont se fêter ceci. Les enfants vont participer à des fêtes dans les paroisses, vont se retrouver, voilà, et on va partager ensemble un certain nombre de choses. C'est surtout une fête de famille, et on va profiter de ce moment-là, au moment des prédications, des homélies, si vous préférez, pour se souvenir qu'à un moment donné, quelqu'un, un homme, mais également fils de Dieu, puisque c'est telle est notre croyance, est venu sur la terre pour sauver les hommes qui en avaient besoin. Donc il y a, si vous voulez, un regard d'humilité par rapport à un événement où... Voilà, cet être qui est venu, il est venu non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver et apporter la paix. Et donc, occasion de partage, de fête avec non seulement sa famille, mais également, c'est l'occasion aussi d'inviter, comme vous l'avez fait, des gens venant de l'extérieur, parfois des SDF, enfin...
Vous avez employé le mot homélie, qu'est-ce que ça signifie ?
Homélie, j'emploie ce terme parce qu'il est souvent employé dans le monde catholique, si vous préférez le terme prédication. Chez les protestants, c'est plutôt ça qui est employé. La prédication, c'est à un moment donné où le pasteur va, comme va le faire l'imam, je pense, dans les mosquées, ou le prêtre, va porter la parole, tout seul. Donc c'est pas une prière, c'est vraiment un prêche.
C'est un prêche, oui.
C'est le même sens que prêche. Le prêche, un sermon, une prédication, une exhortation, voilà.
Le prêche et le sermon, c'est pas la même chose, c'est la même chose ou pas?
Ça veut dire la même chose.
Prêcher la bonne parole, exactement.
Ouais, ouais.
Ça veut dire la même chose.
Je vois peu de différence.
Alors, qu'est-ce qu'une
scribe ? Je voudrais ajouter, monsieur, quelque chose à ce que vous venez de dire, c'est que Noël, pour les catholiques, c'est regarder cet enfant qui est nu, qui vient de naître, qui est d'une fragilité extrême, d'une grande vulnérabilité. Et c'est vrai, ce que vous disiez sur l'accueil, il y a aussi l'idée d'être en capacité, pendant cette période, peut-être de manière encore plus forte, d'accueillir le plus précaire, le plus fragile. Parce que dans cet état-là, dans la crèche, Jésus, on sait bien qu'il est très fragile. Et faire attention dans sa propre famille, déjà, et dans son entourage, qu'aucun ne soit seul le soir de Noël. Moi, par exemple, j'ai des oncles et tantes très âgés qui vivent dans le Midi. Ils sont tout seuls, ils n'ont pas d'enfants. Et ben, c'est très important dans notre famille de les appeler pour voir s'ils veulent venir nous voir, voilà. Et juste, je te racontais, Yacine, l'autre jour, j'ai vécu au Mexique, et au Mexique, la période de l'Avent, elle s'intensifie la dernière semaine avant Noël, il y a ce qu'on appelle les posadas, et on ouvre sa porte, mais matériellement, aux gens qui veulent venir manger la soupe, voilà. Et ça, c'est vécu de manière très concrète aussi, Noël.
C'est très beau.
Ouais.
Imam Adelali, vous voulez rajouter quelque chose? À minuit, vous vous transformez en citrouille ou quoi?
Parce que pas du tout, Philippe. Je reste tel quel, alhamdoulilah. Mais effectivement, nous avons un immense respect pour ce grand personnage qui était Jésus, dont nous reconnaissons toute sa vie comme étant une vie de bénédiction de Dieu sur terre pour les hommes. Il est, comme le cite le Coran, l'âme de Dieu. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama, une parole qu'il a envoyée dans Marie ou chez Marie, donc la Sainte Marie, et un esprit venant de lui. Donc c'est cet esprit-là, ce ruh, qui reste un mystère, puisque même quand le prophète et ses compagnons vont interroger Dieu pour savoir quel est le sens, quelle est la réalité intrinsèque de cette entité qu'on appelle l'âme ou l'esprit, eh bien Dieu dira, cela est réservé à moi. C'est-à-dire, vous n'avez de savoir qu'une quantité limitée. Et donc à partir de là, cet esprit que Dieu a soufflé dans le corps de Marie, ça reste un mystère, comme il est bien sûr le mystère de cet même esprit qu'il y a dans le corps de chacun d'entre nous, et qui est propice à recevoir cette lumière divine, cette bénédiction venant d'Allah Azza wa Jal, notre Créateur.
Picuni, restez avec nous, on parle des fêtes dans les religions ce matin.
Picuni revient dans un instant. Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Speak Uni, le jour de Noël, puisque c'est un jour de fête, émission spéciale. Speak Uni, ça veut dire spiritualité, culture et harmonie, Yacine.
Effectivement, ou bien parler de façon unie.
La citation du jour, Yacine.
Bah écoutez, une citation un peu philosophique aujourd'hui, vous me direz de qui elle provient. Une fête est un excès. C'est un excès permis ou un excès ordonné. À votre avis, de qui elle vient ?
Vous posez la question à nos invités, Catherine Escrive, journaliste multimédia, le pasteur Patrick Lagarde qui est avec nous, Karim Ifrak, Christian Bailly et l'imam Abdelali Mamoun. Alors,
oui. Bon, moi, je perds toujours à ce jeu, ça fait plusieurs fois que je
perds. Alors, est-ce qu'il est français, contemporain ?
Non.
Si vous permettez, moi, je dirais juste, je ne vois pas le philosophe derrière cette citation, mais je vois un hadith du prophète. De l'islam qui lorsqu'il parle des fêtes, il dit c'est un jour, une occasion d'abondance et allez-y, profitez-en sans modération et profitez-en. Donc je vois plutôt le hadith, mais je vois pas le philosophe, mais on est pas très loin.
On est pas très loin effectivement.
Alors c'est un arabe ?
Non.
Alors, je ne sais pas. Alors.
Si on n'a pas d'indice, Yacine.
Non, je vais vous le dire tout simplement parce que c'est pas, on n'est pas encore aux questions, mais c'est Freud.
Freud,
oui,
d'accord.
Freud.
Okay.
Oh. Si Freud nous autorise, alors on va y aller.
De toute façon, lui n'autorise pas que ça, il dit beaucoup de choses.
Sigmund
Freud, d'accord. Oui.
Bien, écoutez, Freud invité à cette émission.
Il y avait une citation
aussi. Donc il était allemand, lui, c'est un allemand.
Exact,
c'est ça.
Oui. Il y avait une citation qui est relative à la Toussaint, que j'avais trouvée intéressante. Parce que la Toussaint, c'était au mois de novembre.
Le 1er novembre.
C'était le 1er novembre, effectivement. Et en fait, c'est l'occasion où les chrétiens vont visiter leurs morts. Et en fait, dans cette citation, il est dit « La Toussaint est le jour où les morts de demain vont rendre visite à ceux d'hier ».
Alors qu'en vrai, c'est le 31 octobre, la fête des morts. Et c'est le lendemain, la fête des saints. La Toussaint, c'est la fête des saints. C'est le 31, qu'ils appellent aujourd'hui Halloween, mais en vrai, c'est chez les chrétiens, la fête des morts, le 31 octobre.
Et c'est une citation, de Henri Duvernoy.
Bien, on en apprend. Christian Bailly, c'est Noël aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fête Noël, finalement ?
Alors, on fête Noël et je voulais revenir, effectivement, on parlait des horaires, des messes très importantes. C'est la messe de minuit, donc pour les catholiques, le fait que la messe ait lieu autour de minuit est extrêmement important. Dans le passé, on avait pitié des gens, donc on faisait les messes à 9h30, 10h du soir. Et on a trouvé très important de ramener le symbole qu'à vers minuit, à la fin de la lecture de l'évangile du jour, qui annonce la naissance de Jésus, qui se termine par le chant Gloria, on déclenche les cloches dans la ville. Donc à minuit, les cloches sonnent pour annoncer aux alentours la bonne nouvelle. Et donc ça, c'est quelque chose, une pratique qui s'était un peu perdue et qui revient depuis des années.
Sauf que maintenant, il n'y a plus assez de curés dans les villages pour faire les messes de minuit.
Donc il faut des grandes cloches.
Voilà, 24 décembre. Hein.
Mais on s'efforce effectivement de réunir les gens. Et pour beaucoup, ces messes se sont de nouveau remplies de personnes. Et donc, c'est en général, d'ailleurs, pour l'aspect convivialité et partage. À la fin de la messe, il y a un partage autour de brioches et de chocolat chaud, donc pour également avoir l'aspect festif au-delà de l'aspect
culturel.
Il y a même la bûche aussi là, qui va avec, non ?
Après la bûche, c'est cette fois.
Et là,
dans l'église, c'est souvent brioche et chocolat, parce que à minuit et demi, 1h du matin, voilà. Et effectivement, c'est un point très important, donc pour nous de.
Moi, il y avait une chose importante pour, que je voulais comprendre, c'est pour une famille chrétienne, que ce soit protestante ou catholique ou autre, quels sont les rites que ces familles ont pendant Noël à la maison? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des traditions ou des rites qu'on enseigne aux enfants pendant cette période?
Alors, moi, j'ai trois enfants. On a toujours fait le calendrier de l'Avent. Alors, c'est très commercial, maintenant, le calendrier de l'Avent. Donc, il faut arriver à trouver un calendrier qui représente une scène de nativité. C'est compliqué, parce qu'il y a Star Wars,
aujourd'hui,
Pokémon.
Maintenant, voilà, il y a le calendrier de l'Avent Playmobil. Donc,
voilà.
Effectivement...
Donc, l'idée, c'est quand même que ça ait du sens. Et les enfants ont très envie d'avoir le calendrier Star Wars, par exemple. Donc, on ouvre une petite fenêtre. Hein, et derrière la petite fenêtre, il y a souvent une citation des évangiles ou quelque chose qui nous permet d'attendre et de réfléchir. Et concrètement, on y pense tous les jours. Et puis, il y a aussi la crèche. Ben, nous, par exemple, on a fait la crèche dimanche. C'était le premier dimanche de l'Avent. On fait la crèche ensemble et c'est un plaisir. Moi, j'adore faire la crèche. Il faut que ce soit beau. Chacun peut mettre son petit grain de sel dans la crèche. Et puis après, il y a la couronne de l'Avent. Donc, vous en avez parlé, une couronne avec quatre bougies qui symbolisent les quatre dimanches. Et chaque dimanche de l'Avent, on allume une des bougies. Voilà. En fait, c'est des rituels qui nous permettent de nous souvenir que Noël va arriver et qui donnent du sens. Et souvent quand même, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de familles, même catholiques, oublient ce sens. Et qu'on a besoin de retourner à nos sources. Enfin, moi, je le ressens.
C'est pas la fête des cadeaux, en fait, Noël.
Ah non, pas du tout.
Non, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, comme tout est devenu un petit peu commercial, on peut avoir aussi l'impression que Noël, oui, c'est la fête des cadeaux.
J'ai bien envie de rassurer madame en lui disant il n'y a pas que les familles catholiques qui perdent un petit peu le sens des fêtes. C'est un petit peu une contamination générale.
Le sens des fêtes, c'est de savoir pourquoi on fait les choses, en fait.
Exactement.
Ouais. En principe, c'est de susciter l'amour de Jésus par le cadeau que l'on offre aux enfants, en leur disant que c'est grâce à Jésus que tu as eu droit à ce cadeau. Et aujourd'hui, spécifiquement parce qu'on commémore sa naissance, et donc ça suscite l'amour de Jésus à travers le cadeau que l'on offre à l'enfant, qui lui est aux anges de recevoir, et donc il est content de recevoir ce cadeau. Et donc c'est vrai que dans son cœur, le fait de ressentir, de savoir qu'il a reçu un cadeau parce que Jésus est né, ça effectivement influe dans son éducation chrétienne. Ça, c'est
sûr. Il peut aussi faire un cadeau lui-même. C'est important de savoir offrir.
Oui, voilà, effectivement. C'est dans les deux sens.
Est-ce que Noël, c'est la fête la plus importante de l'année du calendrier ou pas?
J'ai envie de vous répondre qu'il y en a deux, importantes aujourd'hui qui sont partagées par l'ensemble des chrétiens. C'est Noël d'une part, c'est la naissance, et c'est Pâques d'autre part, qui est la mort et la résurrection. Et donc, c'est vrai que dans la désaffection que l'on peut constater au travers de la religion, il y a quand même deux moments où les gens se retrouvent, c'est Noël et Pâques. Et donc, je crois que nous essayons, l'ensemble des religions essaient aujourd'hui d'éviter la dérive que l'on a constatée au travers principalement de Noël, qui est devenue une fête commerciale, en ramenant ceci à quelque chose. Voilà, il y a quelques jours, nous avons distribué à nos enfants les calendriers aux plus petits, les calendriers de l'Avent, voilà, qu'ils attendaient d'ailleurs. Et à Noël, on va tous se réunir en famille. On va tout faire pour être tous ensemble le jour de Noël. Et ça donnera un sens plus spirituel que simplement les cadeaux. Il y aura des cadeaux, c'est sûr. Mais
C'est pas possible sans, en fait, maintenant, aujourd'hui.
Voilà. Et en particulier dans notre paroisse, on va faire un concert. Et ce concert, c'est le Messie de Handel. Donc, c'est pas pour rien. On va réunir les gens de la région pour écouter des paroles qui se trouvent à la fois dans le Premier Testament ou l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament sur le Messie. Et donc, c'est pas pour rien que ça a été fait pendant cette période de l'Avent.
Christian Bailly.
Oui, je pense que je partage tout à fait votre opinion. Bon, hormis que Pâques est peut-être, pour moi encore, peut-être un peu plus important, bon, c'est sûr que si...
Non, je veux dire, c'est au niveau du statut, parce qu'en islam, oui. En fait, toutes les fêtes n'ont pas le même statut. Par exemple, Noël et Pâques, c'est le même statut
Je ne pense pas tout à fait. Noël, c'est vraiment la fête, le temps de paix, et c'est attaché donc à la naissance. Alors que Pâques, bien souvent, par exemple, c'est la date d'aboutissement de toutes les personnes qui sont catéchumènes, donc qui démarchent pour rentrer dans la foi catholique. C'est ce jour-là qu'ils sont baptisés, qu'ils peuvent recevoir pour la première fois la communion. Donc il y a une démarche beaucoup plus importante.
Les enfants aussi, la communion, ça se passe à ce moment-là ?
Alors, sauf pour les jeunes enfants. Pour les jeunes enfants, en général, ça se passe au cours de l'année, dans des cérémonies
un peu spécifiques. Ah, vous parlez des tout bébés ?
Non, pour des enfants entre 7 et 12 ans à peu près.
Oui.
Au-delà, il faut qu'ils suivent le chemin des catéchumènes, qui est une préparation beaucoup plus longue, sur 2 années. Et donc, qui se fait.
Le baptême aussi, c'est tout au long de l'année.
Tout au long de l'année, oui. Le baptême, par contre, pour les jeunes enfants, c'est tout au long de l'année. Pour les enfants un peu plus âgés, c'est lors d'une cérémonie un peu spécifique. C'est pas régulier. Voilà.
Si je peux juste rajouter, il me semble, enfin, c'est que ma pratique qui me le dit, que le chemin vers Pâques, donc ça commence 40 jours avant, par le début du carême, c'est un chemin plus intériorisé peut-être. Enfin, en tout cas dans ma communauté à moi, on intériorise les choses de manière peut-être plus personnelle, alors que Noël, j'ai l'impression qu'on exulte plus vers l'extérieur, qu'on proclame plus.
Tout à fait. Tout à fait, les Pâques. Et... Alors ce qui est très drôle, très curieux dans la pratique, c'est que on pourrait s'attendre que les offices du jour de Pâques même soient très suivis, qu'il y a du monde. Mais c'est l'office qui a lieu 8 jours avant pour les rameaux, où on bénit les rameaux, qui en général
qui rassemble
le beaucoup
c'est
plus
c'est
de
quoi,
monde,
pourquoi,
pratiquement
pourquoi
30-40% de plus.
C'est quoi, les gens voudraient savoir
que... Les gens, alors les rameaux sont bénis, puisque quand Jésus arrive à Jérusalem 8 jours avant sa mort, il est accueilli dans la rue par des gens qui l'accueille comme roi à cette époque-là. Et justement, pour montrer vraiment qu'il l'accueille, ils ont ramassé des branchages et ils lèvent leur branchage pour lui rendre hommage. Et donc, ce branchage a été béni. Et dans la tradition catholique, si vous voulez, donc les gens achètent du buis ou viennent avec du buis qui est béni, parce que le buis se garde bien pendant une année. Et ensuite, ils ramènent le buis chez eux, et bon, ça, ils le mettent en particulier, s'ils ont des crucifix, ils le mettent.
Alors, le buis, je donne la parole après à Imam Dali, mais le buis, le houx, qu'on retrouve beaucoup en fin d'année. Hein.
Alors, le houx, c'est plus Noël.
C'est plus Noël, voilà. Et le 1er janvier, c'est pas le buis.
Ah non, c'est le gui.
C'est le gui. Ah pardon. Le gui.
Alors le gui. Mais ça c'est plus païen. Je pense pas que ça.
Il y a pas de spiritualité attachée à ça.
Justement pour faire le lien avec le Nouvel An qui vient une semaine après Noël, mais il faut faire dans l'histoire un bond de presque plus de 300 ans, c'est-à-dire arriver au 4e siècle pour comprendre l'origine de ce moment, le choix du calendrier grégorien de débuter l'année non pas avec la naissance de Jésus, mais une semaine après avec le Nouvel An, c'est la Saint-Sylvestre. C'est la Saint-Sylvestre du personnage Sylvestre le Grand, Sylvestre Ier dit le Grand, qui a on va dire, confirmé et approuvé le Concile de Nicée en 325, au moment où est-ce que les prêtres se réunissent à Nicée, justement, dans cette ville de l'Anatolie, hein, de l'Asie mineure, avec le nouveau empereur Constantin Ier, dans lequel, bien sûr, le pape Sylvestre approuve la foi paulinienne, la foi de son envoyé, qui est celui qui est fêté le 2, je crois, il s'appelle Basile de Césarée, César, et qui est l'émissaire de Sylvestre, qui va donc confirmer la foi paulinienne, puisqu'à l'époque il y a divergence entre d'un côté les pauliniens, mais de l'autre les donatistes, les arianistes, etc., les adeptes de Arius, le fameux prêtre d'Alexandrie, qui va lui réfuter la foi paulinienne de Basile et de Sylvestre. Et c'est quand
Sylvestre va lui réussir à propager ce dogme, ce credo en Occident, que va lui être rendu hommage par Grégoire premier, le grand, 7 siècles plus tard, pour débuter le calendrier grégorien, eh bien, c'est la Saint-Sylvestre qui va être honorée.
Bien. Alors, il y a un auditeur qui nous dit que le 31 octobre, c'est Halloween, le 1er novembre, c'est la Toussaint, et le 2, c'est le jour des morts.
Ah non, c'est le 31 décembre, octobre.
Pour les catholiques, c'est le 2.
C'est le 2.
Le 2 novembre.
Ah d'accord.
J'ai pas voulu vous corriger, mais
il y a un auditeur qui vient de me le dire, donc en fait, comme ça, on est tranquille.
Ah, je pensais que c'était l'inverse.
Non, on confond énormément, et c'est vrai, mais c'est 31 octobre, Halloween, normalement, c'est une nouvelle...
Et chez les protestants, pareil?
Alors, chez les protestants, rappelez-vous, il n'y a pas, les protestants ne fêtent pas les morts, pas plus qu'ils ne prient les morts. On y viendra peut-être plus tard. Et donc, des fêtes comme Halloween sont considérées comme étant païennes.
Païenne, bien sûr.
Ce que nous faisons le 1er novembre, je vais dire un peu comme tout le monde, nous profitons de l'occasion pour aller nous souvenir sur la tombe de nos êtres chers. Mais il n'y a pas, si vous voulez, la notion de Toussaint n'existe pas dans le monde protestant. Hein.
Bien, c'est important de le rappeler. Spicuni, émission spéciale en ce jour de Noël sur Beurre FM.
Spicuni revient dans un instant. Spicuni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Spicuni, spiritualité, culture et harmonie. Yacine, tout à l'heure, nous jouerons au grand quiz des religions avec nos invités. Aujourd'hui, Catherine Escrive, qui est journaliste multimédia, réalisatrice de documentaires. Le pasteur Patrick Lagarde est avec nous, trésorier de la Fédération protestante de France. Christian Bailly, membre de la paroisse d'Anguien, les Bains et membre de l'association interreligieuse 4x1 est avec nous. Karim Ifrak, docteur de l'école pratique des hautes études, islamologue, chercheur au CNRS et codicologue spécialisé dans le codex du Coran, est avec nous ce matin. Et puis l'imam Abdelali Mamoun est là également. On parle des fêtes. Il y a cet équivalent de fêtes en islam, imam Abdelali.
Ah oui, bien sûr, nous avons deux grandes fêtes chez les musulmans. Quand le prophète est arrivé à Médine, il a vu que les Médinois, qui avaient leur propre tradition ancestrale, qu'on appelle la Jahiliya, cette période anté-islamique, où est-ce qu'ils célébraient deux moments de fêtes. Pareil que les fêtes qui est là, le prophète viendra, on va dire, rectifier et imposer les rites que Dieu lui a prescrits, qui sont les fêtes de la fin du Ramadan, de la rupture du Ramadan, qu'on appelle Eid al-Fitr al-Mubarak ou al-Fitr al-Eid al-Sarir. Il est petit parce qu'il ne dure qu'un jour. Et vous avez l'Eid al-Kabir, la fête du mouton, du sacrifice, Eid al-Adha, etc., qui est la grande fête, Eid al-Kabir, hein, qui parce qu'elle dure 3 ou 4 jours, c'est-à-dire le jour de l'Aïd plus 2 ou 3 jours après le jour de l'Aïd. C'est pourquoi on l'appelle la grande fête. Et celle-ci, la première, coïncide au premier jour du mois de Shawwal, c'est-à-dire le 10e mois du calendrier lunaire, et l'autre coïncide au 10e jour du 12e mois lunaire, qui est le dernier mois du calendrier musulman, qui est ce qu'on appelle Ashra Dhul-Hijjah, le 10e jour du mois de Dhul-Hijjah, qui est dans lequel est célébrée cette fête du sacrifice. C'est la commémoration du sacrifice d'Abraham, parce que effectivement nous considérons que nous sommes nous aussi héritiers de ce patriarche des prophètes qui était Ibrahim alayhi salam.
Et qu'en est-il de la fête du Maoulid, comme on l'appelle, ou c'est-à-dire la naissance du prophète?
Moi, je pense qu'on doit l'intégrer cette fête-là plutôt dans des formes de commémoration. Elle peut être festive, mais elle n'a de cadre que culturel. Elle n'est pas cultuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un rite religieux associé à la fête du Maoulid. On ne peut pas lui associer un rite. C'est purement, on va dire, social et culturel. C'est les gens, la fête, ce moment-là, cultive l'amour du prophète, effectivement, en parlant de sa vie, en parlant de la miséricorde divine à travers l'envoi de ce grand personnage qui était Mohammed a.s. comme sceau des prophètes. Mais il n'y a pas de rituel associé. Lui qui innove un rituel spécifique pour le Maulid Nabawi sera tout de suite montré du doigt comme étant un innovateur, un mubtadé, quelqu'un qui a inventé quelque chose de la religion dont elle ne fait pas partie. Même si, effectivement, il y a énormément de confréries soufis qui se donnent le droit sous prétexte que leur maître a vu en rêve le prophète et qui lui a, à travers cela, lui permis de faire telle ou telle invocation ou telle pratique ce jour-là. Bien sûr, tout cela n'est pas recevable pour la plupart des musulmans dans le monde.
Alors, c'est des questions de vivre ensemble qui reviennent souvent. Comment est-ce qu'on, par exemple, les musulmans doivent souhaiter un bon Noël aux catholiques?
Je pense de la façon la plus franche et la plus directe et la plus fraternelle et la plus aimable qui soit. Noël, pour la communauté chrétienne internationale, catholique, chrétienne plutôt internationale, est une fête qui est partagée à travers toute la planète. Pour le musulman, il est tout à fait possible de la partager avec eux, pas d'un point de vue théologique ou religieux, mais d'un point de vue festif, et là-dessus, tout reste possible.
Bon, c'est simplement, effectivement, de dire joyeuses fêtes, parce que nous avons un devoir de vivre ensemble, de convivialité, de bons rapports avec nos concitoyens qui vivent autour de nous, qui ne sont pas de la même confession, mais à qui nous devons ce droit de voisinage. Vous savez que le mot gouar, vous savez, on dit le gouar, c'est péjoratif, mais ça vient du mot jiwar, jiwar qui veut dire les voisins. Et chez nous, le voisin, il est sacré. Hein, le prophète a dit qu'un jour, l'archange Gabriel n'a cessé de me recommander le bon voisinage jusqu'à que j'en ai cru. J'ai presque cru. Le prophète dit que j'ai cru qu'il allait en faire un héritier, c'est un membre de la famille, que le voisin devait être respecté, et que ces voisins qui nous entourent, qui sont chrétiens, juifs, athées ou agnostiques ou quoi que ce soit, nous leur devons ce bon vivre ensemble, et cette relation, et ça fait partie de ce vivre ensemble, que de leur souhaiter une bonne fête. Et pourquoi pas même participer si on est invité à la fête. Pourquoi
J'ajouterais
pas.
Même qu'il y a certains avis juridiques dans le monde musulman où certains prêcheurs, certains imams, certains fuqaha interdisent complètement aux musulmans de partager cette joie de vivre avec leurs amis, leurs voisins chrétiens. Alors cet avis n'est pas fondé parce qu'il est mal compris. Il est mal compris parce que, en règle générale, les juristes ça n'est pas des juristes, ce sont juste des imams ou des prêcheurs qui avancent ce type d'avis. Ce sont des gens qui, généralement, ne vivent pas dans un espace qui est partagé avec les autres communautés religieuses. Donc, ils sont dans une espèce de fermeture d'esprit. Ils évoluent dans un espace islamo-islamique. Et donc, ils n'ont pas cette proximité et cette connaissance qu'ils peuvent avoir avec les autres communautés religieuses ou convictionnelles, quelles qu'elles soient. D'un autre côté, ils oublient bien souvent que les rapports humains qui étaient développés entre le prophète lui-même, qui est l'exemple phare dans l'islam, et les communautés chrétiennes étaient d'une proximité très agréable, très avenante. Et c'est ça le modèle que le musulman doit suivre. Cette proximité qu'on le retrouve dans le texte coranique, qu'on le retrouve dans les actions et les jacissements du prophète lui-même, c'est ça qui doit faire exemple, et c'est ça la base qu'un musulman doit suivre, et non pas les prêches d'une ultra-minorité qui vont dans le sens de tout interdire, de tout départager,
voire même de jeter l'anathème,
et de jeter parfois l'anathème. Tout à fait.
Mais je trouve que c'est super que... Pardon, j'ai pris la parole sans si.
Prenez-la.
C'est super que vous disiez ça, parce que dans le cadre du groupe interreligieux auquel j'ai participé, j'ai été invitée par une amie musulmane à une rupture de jeûne lors des dernières festivités, voilà. Et j'avais envie de l'inviter à goûter avec ses enfants le 25 décembre. Mais en fait, je n'osais pas parce que j'avais peur de la gêner, de l'embêter, de est-ce qu'elle pouvait le faire, est-ce qu'elle pouvait pas. Et je trouve ça assez rassurant, au fait qu'on puisse... alors, c'était pas du tout pour la convertir, c'était juste pour inviter ses enfants à manger un goûter, et pour partager la joie. Et peut-être qu'il y a parfois beaucoup de pudeur par rapport à nos
fêtes respectives. Vous savez, partager un moment festif, ne veut pas dire que l'on va partager la conviction de l'autre. Mm-hmm.
Mais avant, ça se faisait beaucoup plus facilement, Karim Ifrak. Depuis quelques années, quand même, les gens sont plus sur des postures où, par exemple, le sapin, c'est interdit, il ne faut pas mettre de sapin.
Tout est interdit.
Il ne faut pas.
Il faut rien l'autoriser. Moi, je l'autorise.
Il ne faut pas. Il faut pas aller le soir du réveillon. Il ne faut pas aller le soir du réveillon assister. Moi, je l'ai entendu.
Écoute, je
l'ai beaucoup entendu.
Je voudrais répondre de manière plus forte. Le prophète reçoit des chrétiens de Najran, qui est aujourd'hui encore une ville très christianisée. Il y a encore des gens là-bas de confession chrétienne à Najran, qui est une ville au sud de l'Arabie, pas loin de la frontière avec le Yémen. Il reçoit des chrétiens. Cette histoire est consensuellement reconnue comme étant authentique. Il les reçoit dans la mosquée. Il débat avec eux, il discute avec eux. Au moment de la prière chrétienne, il se dirige vers l'est. Et ils commencent à faire le prière. Les compagnons s'insurgent et veulent s'opposer à leur comportement et à leur volonté de prier dans la mosquée. Comment ça, vous le prophète va leur dire, mais laissez-les prier, ils ont droit, ils veulent adorer leur Seigneur, laissez-les prier. Et il va les laisser prier leur Dieu dans la mosquée et en présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela montre bien que même dans le lieu le plus sacré qui est la mosquée, eh bien, moi, je pense que nous avons un devoir de réciprocité. Quand je vois qu'en France, il y a des communautés musulmanes à qui on prête le vendredi des églises et des édifices chrétiens pour qu'ils puissent prier la prière du vendredi, prière musulmane, ben, je trouve qu'il est important que nous puissions avoir cet esprit de solidarité réciproque et d'avoir cet esprit d'ouverture, de dire, voilà, on, effectivement, la cum dinukum waliyadin, comme dit le Coran, à vous votre religion, à moi la mienne, mais, et pourquoi pas, avoir cette ouverture d'esprit de respecter le choix de l'autre.
Si vous permettez, permettez-moi juste d'apporter un témoignage.
Parce que sinon, nous n'allons pas jouer.
Bien souvent, les gens sont les victimes de leur propre ignorance. Et souvent, les victimes de l'ignorance de certains qu'ils font véhiculer, galvauder. Je voudrais prendre le témoignage d'un ami irakien qui a vécu, qui a grandi à Mossoul, cette ville martyrisée par Daesh. Mossoul est considéré dans le monde arabo-musulman comme le foyer du christianisme. Les plus anciennes, les plus vieilles communautés chrétiennes du monde chrétien sont établies à Mossoul. Et ce monsieur-là, qui est musulman, me dit qu'on avait des rapports avec les chrétiens de Mossoul jusqu'à la limite de ne plus savoir qui est le musulman, qui est le chrétien là-dedans. C'est pour vous dire que les gens vivaient dans une espèce d'harmonie, dans une espèce de quiétude, dans une espèce de proximité qui ne posait pas question de savoir quelle est ta conviction ou quelle est ton orientation. C'est quelque chose dont on a été victime malheureusement depuis quelques dizaines d'années et j'espère qu'il va y avoir un retour au naturel.
Je vous rassure que aujourd'hui les musulmans sont en train de nettoyer l'église chrétienne de Mossoul. J'ai vu des reportages sur ce sujet, c'est quand même magnifique.
Bien, Yacine, le grand quiz des religions, on vous pose des questions et vous êtes les plus rapides pour y répondre. Première question.
Première question, on va penser à nos amis bouddhistes, parce qu'ils ont aussi leur fête. Comment ça s'appelle la fête qui commémore la naissance, à la fois la naissance et l'éveil et la mort de Bouddha? Cette fête est célébrée à la première pleine lune de l'année bouddhiste, puisque la pleine lune symbolise le renouveau.
Ah, le bouddhisme.
Ça, c'est une question pour les 4 fois 1.
La quatrième, justement.
Ah oui, oui, alors attendez.
Il y a les bouddhistes en quatrième.
Oui. Ça commence par quoi, Yacine?
Un V.
Alors là.
Veda, alors.
Bon, vous y êtes prêts.
Ah, ouais, c'est pas mal.
C'est Vesak.
Vesak.
V-E-S-A-K.
Désolé pour nos amis bouddhistes.
Bien. Ah ben, on les attend.
Voilà. Deuxième question.
Abdelali. C'est compliqué de faire venir les bouddhistes à l'heure.
Bon, une question facile. Cette fois, c'est pour nos amis juifs. Comment s'appelle la fête juive hivernale qui dure 8 jours et qui est aussi appelée la fête des Lumières?
Lucas.
C'est pas Hanouka.
Bien. Et c'est Christian Bailly qui marque le point.
Où est-ce que pendant cette période-là, ils allument tous les jours une chandelle, des fameux chandeliers au.
Oui, effectivement. Donc, cette fête, elle est célébrée par l'allumage d'une menorah chaque soir, ainsi que des prières particulières et la consommation d'aliments frits.
Voilà. Joyeuse fête d'ailleurs, parce que nous en sommes en plein dedans.
Ah oui.
Troisième question, Yacine.
Comment appelle-t-on la fête chrétienne qui est l'occasion de célébrer l'élévation de Jésus au ciel?
Je crois que c'est l'ascension.
C'est l'ascension.
Attention, il y a l'ascension et l'assomption. Mmh. Oui. C'est pas pareil.
L'imam Abdelali est monté plus vite que le père, que le pasteur Patrick Lagarde.
C'est moi qui ai gagné.
Oui, c'est qui a gagné. Pourtant, alors, il y avait plus à soulever.
C'est quoi l'assomption et c'est quoi l'ascension?
Sachez que l'assomption,
c'est le pasteur.
Avec l'immense respect que nous avons pour Marie, nous ne pensons pas que Marie soit un intermédiaire entre Dieu et les hommes, et donc
ça c'est le 15 août.
Les protestants ne fêtent pas l'Assomption, ni toutes les fêtes qui sont relatives à Marie.
Bon, les 15 août, c'est pour
Immaculée Conception. La grande différence entre
elle n'est pas Immaculée Conception.
Voilà, je maintiens l'immense respect que nous avons pour cette femme.
Mais vous avez bien fait de mettre les précautions d'usage.
Qui a été choisie par Dieu, et c'est certainement la meilleure en Israël pour porter son fils.
Donc, bah nous on dit qu'elle est meilleure dans le monde. Inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa il alamin.
Et dans l'islam, elle est la seule femme.
Marie, la meilleure des femmes du monde.
Citée nommément, voilà. Nommément dans le texte coranique.
Et elle a même le nom d'une sourate à son nom. La sourate Marie. Sourate Maryam.
Bien, allez, une dernière question.
Alors, dernière question.
Pour la route.
D'ailleurs, l'imam Abdelali en avait parlé. Comment est fixée la date de la fête du sacrifice chez les musulmans?
Moi, je vais laisser la place aux autres. J'ai déjà beaucoup parlé.
Comment t'as fixé la date du sacrifice? Donc, Eid al-Adha.
Ça se base sur le calendrier lunaire dans le monde musulman. Et du coup, le calendrier lunaire, il est mobile. Après, c'est une question de calcul qui se fait tous les ans et sur lequel, bien évidemment, bien souvent, le monde musulman, il n'est jamais d'accord. Donc voilà, et ça pose toujours question.
Alors, il y a moins de difficultés à définir le dixième jour, parce qu'au bout du 3 ou 4e jour, on peut dire la vieillesse d'une lune. On peut savoir quel jour on est.
Ce qui est embêtant, c'est que le 9e jour est le plus important.
Il n'est pas plus important que le lendemain. Le 9e est effectivement le jour le plus noble de l'année, certes. Yom Arafa, c'est le meilleur jour. Tu as raison. Le jour d'Arafa. Mais le lendemain aussi est très, très important. Il y a même divergence entre savoir quel est le plus noble. Est-ce que c'est le 9e ou le 10e jour? Le plus noble jour de l'année aux yeux de Dieu dans le Coran.
Donc, qui est le vainqueur aujourd'hui?
C'est l'imam Abdelali, parce qu'il gagne tout le temps.
Ah, oui.
Et si on veut la paix, vaut mieux qu'il gagne.
Si tu cherches les problèmes, Philippe, tu veux...
Non. Mais est-ce qu'il a un grand savoir? Vous êtes tous un grand savoir. En tout cas, merci d'avoir été avec nous encore une fois. Bon Noël.
Merci à vous.
On vous dit à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci
à vous. Retrouvez Speak Uni tous les samedis de 10h à 11h et en podcast sur Beurre FM et l'appli Beurre FM.